débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue, merci de nous accueillir pour cette émission du 4 novembre qui nous amène en Allemagne où la CSU, l'Union Chrétienne Sociale, s'est réunie en congrès aujourd'hui. Sa critique de la politique migratoire de Mme Merkel laissait penser que l'alliance avec la CDU, le parti de la chancelière, pourrait être remise en question. Pourtant, la CSU affirme que Angela Merkel peut compter sur son soutien avant même que elle ait officiellement déclaré sa candidature d'ailleurs. Néanmoins, on note un recul de la popularité de la dirigeante allemande depuis sa décision d'ouvrir largement les portes de son pays aux réfugiés. Alors, est-ce que cet afflux de réfugiés justement en Allemagne peut être politiquement fatal à la chancelière Merkel? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Nelle Katharina Wissmann est chercheure associée au CERFA et à l'IFRI. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et puis Michel Weinheister est maître de conférence à Cergy Pontoise, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et chercheure associée, elle, au Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Je cite un de vos articles, madame, puisque je l'ai lu cet après-midi. Ça s'appelle « La gestion politique au défi migratoire », un bilan très provisoire. Et ça a été publié dans la revue « L'Allemagne d'aujourd'hui ». Vous êtes en direct, au téléphone, depuis la Suisse. Bonsoir à vous, Michel Weinheister.
Bonsoir.
Alors, première question. Est-ce que la politique de Mme Merkel s'est modifiée, disons durcie, depuis qu'elle est la cible des critiques, y compris dans son camp? Et je vous donne d'abord la parole, Nelle Katharina Wissmann.
C'est pas seulement suite aux critiques. L'Allemagne a dû se rendre compte au moment où les réfugiés arrivent en Allemagne, en août-septembre 2015, qu'on peut pas continuer comme ça. À l'époque, on pensait justement que ça va dépasser les 1 million de réfugiés. Aujourd'hui, on sait que c'était un peu moins que 1 million et dont 500 000 personnes ont finalement demandé l'asile. Mais effectivement, les règles se sont d'une certaine manière sont devenues un peu de plus en plus strictes. Justement, aujourd'hui, qu'on parle toujours de la politique de porte verte de l'Allemagne, c'est quand même un peu faux. Mmh. Parce que justement, l'Allemagne a voté 2 pactes d'asile, justement, pour rendre les règles un peu plus strictes. Il y a de plus en plus des États dits sûrs, donc, dont les ressortissants n'ont plus le droit de demander l'asile en Allemagne. Il y avait un durcissement, justement, contre au recrutement familial, etc. Donc, il y avait effectivement un durcissement parce qu'on a dû réagir à ce moment-là.
Mmh. Vous êtes d'accord? Michel Weinheister, il y a eu un recul dans la politique de Mme Merkel?
Alors, on ne peut pas appeler ça vraiment un recul. C'est-à-dire que Merkel est quelqu'un d'extrêmement pragmatique et elle a commencé par poser une espèce de principe qu'elle assume d'ailleurs depuis, sur lequel elle n'est jamais revenue, c'est que l'Allemagne allait y arriver. Alors, elle a mis un petit peu de temps à dire à ses compatriotes comment elle allait y arriver, ce qui a suscité de l'inquiétude, y compris auprès des citoyens qui étaient d'accord avec son principe de base. Mais, comme toujours avec cette chancelière, c'est une politique des petits pas, et elle a déployé petit à petit une politique migratoire en Allemagne, en Europe, aux confins de l'Europe, et maintenant internationale, notamment avec sa tournée récente en Afrique, où il y a évidemment aussi beaucoup de choses à faire dans les décennies qui viennent, et pour toute l'Europe d'ailleurs. Alors en Allemagne même, elle a commencé par voter effectivement un premier train de mesures en décembre 2015, le Asylpaket 1, suivi d'un deuxième en mars-avril de 2016, avec, comme l'a dit Nelle Wissmann, un durcissement des conditions, un allongement de la liste des pays considérés comme sûrs, notamment aux pays d'Afrique du Nord, avec une accélération également importante dans le traitement des dossiers des demandeurs d'asile. Et également, ils ont voté une loi en août 2015 qui, elle, est déjà dans l'étape suivante, puisque la loi du 4 août 2016, porte sur l'intégration. Et donc, pour à la fois multiplier les cours d'allemand auprès des demandeurs d'asile qui sont appelés à rester et qui devront s'intégrer, donc, et également pour leur faire mieux connaître les règles et le fonctionnement de la démocratie allemande, également pour les intégrer dans le monde du travail, puisque la plupart d'entre eux ne sont pas adaptés au départ. Alors, quand vous parlez d'un recul, je dirais non. Bon. Elle n'a fait aucune concession sur le fond. Elle a fait une concession verbale en reconnaissant une erreur, c'est la seule d'ailleurs. Elle a dit, à la fin de cet été, à partir du début de l'été d'ailleurs, elle a convenu que les euros, mais d'ailleurs, elle n'est pas seule en cause, elle met en cause elle-même et l'ensemble des dirigeants européens, parlant d'un aveuglement collectif, alors qu'il y avait des signaux d'alarme très nets, au plus tard depuis la tragédie de Lampedusa.
Alors, je reviens vers vous dans un instant et je reformule ma question auprès de Katharina Wissmann. Est-ce qu'on peut dire qu'en ouvrant les portes de l'Allemagne aux réfugiés, Madame Merkel a réussi son pari ? Est-ce qu'on peut déjà le dire ?
Est-ce qu'on peut déjà le dire ? Donc, je pense tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce que en août-septembre 2015, est-ce qu'elle avait vraiment le choix? J'en ai beaucoup discuté avec des hommes politiques allemands et justement tout le monde me dit mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Est-ce qu'elle avait trop le choix? Parce que on se rappelle très bien des images de août 2015, les réfugiés étaient déjà en route, hein. Ils marchaient sur l'autoroute en Hongrie. Donc est-ce qu'elle avait le choix? Par exemple la Bundeswehr aux frontières allemandes, déjà c'est pas du tout possible juridiquement, la police, mais quelles images est-ce que ça aurait donné en Allemagne? Donc est-ce qu'elle avait effectivement le choix? Je ne pense pas vraiment. Elle était d'une certaine manière obligée d'accueillir. Et pour elle, peut-être, il y a certains analystes qui le disent, pour elle, c'est aussi l'occasion de s'approprier un dossier qui, peut-être d'ici 10 ans, 20 ans, tout le monde va dire, mais elle a très bien fait. Tous les autres chanceliers, ils avaient leur grand dossier. Helmut Kohl, il avait la réunification. Gerhard Schröder, il avait la fameuse réforme Hartz IV, donc réforme sur le marché du travail. Donc maintenant, Angela Merkel a justement cette question de réfugiés, où justement elle pouvait montrer que, ce qu'on dit souvent, son parti, les chrétiens démocrates, il y a un grand C, donc ils sont surtout chrétiens et donc ils sont prêts à accueillir les réfugiés.
Alors le slogan de cette grande intégration massive, c'est « nous allons y arriver ». Michel Weinachter, est-ce que l'Allemagne y arrive ?
Je voudrais revenir une seconde sur ce qui vient d'être dit. Je suis tout à fait d'accord avec Nelle Wiesmann, mais il n'y avait pas... est-ce qu'elle a... En fait, voilà, ils étaient 800 000 qui étaient déjà en route. Donc, si vous voulez, ce que disent beaucoup de médias en France, que Merkel a déclenché une déferlante migratoire sur l'Europe, c'est pour le moins simplificateur. C'est-à-dire qu'en fait, elle a appris le 15 août 2015 par son ministère de l'Intérieur que 800 000 personnes étaient d'ores et déjà en route par la route des Balkans. Il y avait une situation d'urgence humanitaire, puisque Viktor Orban, en fait, ne prenait pas en charge ces personnes qui arrivaient en Hongrie. Et donc, Angela Merkel, comme elle le dit elle-même, elle n'a pas ouvert ses frontières. Elle a décidé de ne pas les fermer, ce qui n'est pas la même chose. Et c'était vraiment une situation d'urgence humanitaire. Et d'autre part, Angela Merkel a bien rappelé, quand on lui a posé des questions là-dessus, qu'elle-même a grandi en RDA et que donc les murs, voilà, elle n'aime pas trop ça. Maintenant, est-ce qu'elle a réussi ? En réalité, le défi ne fait que commencer. On ne sait absolument pas comment la situation va se développer dans les années qui viennent, ni en Allemagne, ni en Europe, ni dans le monde, ni si le flot de réfugiés va se tarir ou pas. Ça dépendra de beaucoup de facteurs totalement exogènes à l'Allemagne.
Mais avec ceux qui sont déjà là.
Voilà, alors j'allais y venir. Ceux qui sont déjà là. D'abord, il y a 890 000 personnes officiellement, donc finalement, qui ont été accueillies en Allemagne en 2015. Mm-hmm. Cette année, en 2016, on ne devrait pas dépasser 300 000. Mm-hmm. Ce qui veut dire que, déjà, le flux est endigué, ce qui est déjà une première chose. Quant à ceux qui sont là, chaque cas est vraiment unique et individuel. Le problème, c'est que il faut déjà enregistrer toutes ces personnes, il faut traiter les dossiers. Alors, ça veut dire que du point de vue du traitement des dossiers, il a fallu aussi augmenter le nombre de fonctionnaires qui s'occupaient de tout ça, puisqu'il y a eu des centaines de milliers de dossiers à traiter. Pour l'instant, sur les 460 000, il y a 460 000 demandes qui ont été traitées, et en réalité, le délai a été raccourci à un mois et demi, ce qui en soi est déjà une performance très importante. Alors ceux qui sont là, il y en a qui, la plupart ne parlent pas allemand, la plupart ont des compétences qui ne sont pas adaptées au marché du travail allemand, donc en réalité tout reste à faire. Mais les choses se font petit à petit et on verra bien, on ne peut pas encore donner de réponse.
D'accord, est-ce que les moyens mis en œuvre sont suffisants selon vous, Katharina Wiesmann ?
Alors je pense tout d'abord, il faut dire que vraiment les Allemands étaient peut-être les premiers à être très étonnés que finalement cette situation d'urgence a pu être résolue assez facilement. Je me rappelle très bien, en septembre 2015, on pensait vraiment qu'on n'y arrive pas du tout, et finalement il y avait beaucoup de bénévolat, etc. Parce que l'État n'était pas du tout préparé. Il faut quand même dire qu'on avait des centres d'accueil d'urgence en Allemagne dans les années 90, au moment où les réfugiés arrivent de l'ex-Yougoslavie, mais tout ça, ça a été démantelé, parce qu'on ne pensait pas du tout quelques années plus tard, il y aura une nouvelle vague. Maintenant, tout semble être plus ou moins réglé quant justement au centre d'accueil d'urgence, etc., qui se vide de plus en plus d'ailleurs. Maintenant, la grande question qui reste, c'est justement la question d'intégration. Et là, on se rend quand même compte que ce ne sera pas si simple que ça. Il y a pas mal de personnes qui pensent justement, au moment où le Syrien arrive, ils seront tous des médecins, des ingénieurs, et qu'on va les intégrer très rapidement. Finalement, c'est pas le cas. Madame Weinerster, elle a justement dit qu'on pense que pour l'année 2016, il y aura à peu près 300 000 personnes qui vont encore arriver. Si on reste sur ces chiffres-là, justement, on pense que d'ici 5 ans, c'est ce que annonce le gouvernement, on va être capable d'intégrer à peu près 50-55% de ces personnes-là sur le marché du travail. Mmh. Ce qui veut aussi dire que pendant 5 ans quand même, ça aura une certaine charge pour justement l'État, les charges sociales, etc.
Et il restera encore une petite moitié de gens qui d'ici 5 ans, là, ne sont pas intégrés.
Finalement, effectivement, ce ne sera pas si simple que ça d'intégrer tout ce monde-là sur le marché du travail. Les entreprises allemandes, par contre, étaient plutôt positives. On manque quand même de la main-d'œuvre qualifiée en Allemagne. Justement, pourquoi pas envoyer le jeune qui arrive en alternance, en formation, ça fonctionne très bien. Mais bien sûr, tout d'abord, il faut apprendre la langue. Il faut aussi comprendre comment les systèmes allemands fonctionnent. Et tout ça, ça a un certain coût. Il y a par exemple l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui a dit que à l'horizon 2020, ça va coûter autour de 97 milliards d'euros à l'Allemagne quand même. Ça aura un coût, mais à long terme, peut-être, ça va payer.
Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Michel Weinerster?
Oui, absolument. Donc je reviens effectivement sur l'engagement de la société civile. Une chose qui est peu connue en France, c'est que plus de 20 millions de civils, de citoyens tout simplement, se sont engagés à partir de septembre 2015 dans ce défi et pour tout simplement aider tous ces migrants qui arrivaient. Et ce qui est quand même assez remarquable que sur près d'un million de personnes, ils ont tous été logés et nourris décemment. Il n'y a pas eu de bidonville en Allemagne, mais évidemment, comme il vient d'être dit, tout cela a un coût. Donc, un chiffre complémentaire par rapport à celui de 2020, c'est que rien que jusqu'à fin 2017, le coût estimé des dépenses engagées par l'État serait de à environ 50 milliards d'euros. Les projections plus lointaines restent effectivement restent très variables en fonction des modes de calcul, parce que tout dépendra justement aussi de la faculté d'intégration de ces personnes sur le marché du travail. Évidemment, plus elles sont intégrées et si elles ont un travail, ça n'aura pas du tout le même coût que si ces personnes ne travaillent pas. Donc il y a encore vraiment beaucoup de points d'interrogation, mais en tout cas, arriver à loger, nourrir, décemment accueillir près d'un million de personnes, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant.
Je reviens sur l'aspect politique intérieure en Allemagne de cette affaire qui est très importante, hein, je veux dire. Est-ce que le compromis, enfin, on parlait d'un assouplissement des mesures qu'avait pris Angela Merkel, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que, malgré les désaccords, cette alliance CDU-CSU va vraiment pouvoir se prolonger jusqu'aux prochaines élections? Je vous pose la question, Katharina Wissmann.
Vous savez peut-être qu'aujourd'hui a lieu le congrès de la CSU et c'est vraiment la première fois qu'il n'y a pas un discours du chancelier de la CDU. Donc Angela Merkel n'était pas invitée. Peut-être elle est même assez heureuse parce qu'on se rappelle très bien, en 2015, elle s'est retrouvée sur la scène avec Horst Seehofer, donc le ministre-président de la Bavière, qui a critiqué pendant plusieurs minutes devant elle sa politique. Aujourd'hui, la CSU revendique toujours un plafond. Le plafond qu'ils avancent, c'est 200 000 personnes par an. C'est quand même pas rien. Mais ils disent que justement, ils vont pas reculer. Ils vont justement revendiquer ce plafond-là. On verra. Je pense pas non plus qu'il y aura vraiment un vrai divorce entre la CDU et la CSU. C'est justement un débat. Mais finalement, ce divorce-là, je pense pas qu'il va se faire à l'horizon de 2017.
Alors, Michel Weinerster, sur ce point précis.
Oui, alors sur ce point précis, et pour essayer de répondre à la question posée de ce débat, c'est-à-dire est-ce que ça peut être fatal à Angela Merkel?
Oui.
D'abord, on ne sait pas du tout si elle se représentera. Enfin, tout le monde pense que c'est très vraisemblable. Mais
elle a un quatrième mandat.
Oui, elle a dit qu'elle n'annoncerait sa décision qu'à la fin de l'année. Et surtout, elle a lié sa décision au fait de savoir si elle serait ou pas reconduite dans ses fonctions à la tête de la CDU lors du congrès de la CDU en décembre. Donc c'est là qu'on saura si elle se représente ou pas. Évidemment, la CSU a beau critiquer la CDU, la CSU veut continuer à gouverner, évidemment, si c'est possible. Donc, M. Seehofer, qui a eu des relations exécrables avec la chancelière depuis un an, a mis un peu d'eau dans son vin. Effectivement, au congrès d'aujourd'hui, il y a deux choses totalement contradictoires. C'est la première fois que la chef de la CDU, en l'occurrence Mme Merkel, n'est pas invitée. C'est la première fois que ça arrive. Donc, c'est un signal très révélateur. En revanche, son discours de cet après-midi a montré, il lui a rendu hommage d'une certaine façon en disant disant que c'était une bonne chancelière. Mmh. Et évidemment, maintenant, à partir de maintenant, tout le monde sera en ordre de bataille pour la campagne électorale et pour gagner ensemble. La question suivante, c'est, comme vous le savez, dans le système électoral allemand, oblige le parti qui arrive premier aux élections à choisir un partenaire de coalition pour avoir une majorité de gouvernement stable derrière. Et la grande question... Lequel est-ce que cela peut être? Et est-ce que Angela Merkel, si tant est que la CDU arrive en tête, quel est le partenaire possible? Il y a des choses très intéressantes qui se passent du côté des Verts ces derniers jours.
Oui, alors il y a cet éclatement des forces politiques, évidemment, en Allemagne, qui va rendre l'exercice du pouvoir très difficile. Vous êtes d'accord, seule une coalition, Katharina Wissmann, pourra gouverner normalement l'Allemagne.
Oui, alors tout d'abord, pour rebondir sur ce que Mme Van der Staaij a dit, je pense... La situation est devenue extrêmement difficile pour la chancelière depuis la crise des réfugiés. Mais je dirais pas que c'est complètement fatal. Ce qu'on constate aujourd'hui...
Elle a perdu deux élections quand même d'ici, depuis septembre.
Effectivement, on a les différentes élections régionales, donc au Länder, qui ont justement démontré quelque chose. Aujourd'hui, le paysage politique en Allemagne change. Et c'est notamment l'entrée en scène d'une sixième force, l'AfD, donc le parti populiste que certains analystes disent même que c'est un parti d'extrême droite, et je suis tout à fait d'accord. On peut être assez sûr aujourd'hui que l'AfD va aussi entrer au Bundestag, ce qui est quand même une première en Allemagne, donc d'avoir un parti populiste ou bien d'extrême droite au Bundestag. Mais j'irai pas d'aller jusqu'à dire que c'est complètement fatal, parce qu'on peut être assez sûr quand même que il y aura la CDU ou éventuellement le gouvernement. On verra ensuite, ce sera une fois de plus une grande coalition avec les SPD. Il y a justement, Madame Van der Staaij vient de le dire, la deuxième option de former aussi une coalition avec les Verts. Donc il y a toutes ces options là. Les Verts sont pas complètement contre. Angela Merkel est vue comme quelqu'un de très pro-européenne, libérale, qui a mené justement une politique d'ouverture, donc il y a aussi cette option-là.
Je reviens sur l'AfD parce que c'est une montée intéressante en Allemagne qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle peut finalement faire passer les différences sur les migrants au second plan du débat politique et resserrer les rangs à droite, vous pensez, Michel Van Echter?
Alors,
rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Oui, l'AfD était effectivement à 4% il y a un an et maintenant à peu près à 15% d'intention de vote. Donc effectivement, c'est un phénomène nouveau et non négligeable. Maintenant, comme en Allemagne, c'est un système à la proportionnelle, 15% c'est 15%. Bon, en France, comme vous savez, on a aussi un parti très à droite qui lui est estimé à bien au-dessus, mais on a un système majoritaire, donc les choses sont différentes. Mais même si l'AfD fait 15% l'an prochain, ça n'empêchera pas les autres de former un gouvernement absolument stable. D'autre part, les deux élections que, effectivement, Mme Merkel a perdues, c'était des élections régionales. Et une dans le Mecklembourg, qui est un ancien land, un land issu de l'ex-RDA, et à Berlin, où il y a aussi une partie qui était en RDA. Et il faut souligner, tout le monde s'accorde à le dire, il y a une spécificité de populisme. Dans le populisme, c'est l'endroit où aussi Pegida a vu le jour et s'est développé. Dans ces Länder, c'est une société qui a été fermée pendant plusieurs décennies de dictature, et il y a des problèmes spécifiques sur l'ex-RDA. Cela étant, c'est effectivement un nouveau facteur sur l'ensemble de l'Allemagne, et dont le reste de la classe politique va bien devoir tenir compte.
On n'a pas le temps d'en dire plus, c'est dommage. Merci en tout cas, toutes les deux. J'ajoute que si Angela Merkel ne se rend pas au congrès de la CSU, Horst Schäufer, le président justement de la CSU, a dit, lui, qu'il n'irait pas non plus au congrès de la CDU. On voit bien qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les deux. Merci à vous deux d'avoir éclairé nos lanternes sur cette situation difficile, compliquée en Allemagne, sur le plan politique et sur le plan social, j'imagine. Nelly Katharina Wissmann, chercheur associé du CERFA IFRI, et puis Michel Van Echter, maître de conférence Sergi Pontoise à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et chercheur au Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Merci également à Florence Pons qui a préparé cette émission, et merci à Claude Battista qui l'a réalisée. Lundi, bien sûr, vous retrouvez Anne Souhaitement pour un nouveau débat, et dans quelques secondes sur Radio France Internationale, un nouveau journal.